Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, il est évidemment à mes côtés. Sans lui, je ne saurais vous rassurer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Vous avez vu, je donne de l'importance aujourd'hui pour bien démarrer. Donc c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au sommaire, ce jeudi, dans notre grand dossier du jour, on va s'occuper de nos fesses, les prendre en main, si je puis dire. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, si vous les jugez trop grosses ou au contraire que vous aimeriez les avoir plus volumineuses, c'est à la mode en ce moment. Eh bien, ce qui va suivre va vous intéresser. On va vous détailler les différentes techniques en médecine et chirurgie esthétique qui permettent de redonner un coup de peps à nos fessiers. Pour nous détailler tout cela, nous recevrons le docteur Éric Plot. Il est chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed nous propose aujourd'hui de faire un point sur la vitamine D. Savez-vous précisément à quoi elle sert dans notre organisme? Comment savoir si on est en carence? Il nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous dira pourquoi certains ont parfois l'idée d'ouvrir leur couple à une tierce personne et surtout pourquoi elle pense que ce n'est pas du tout une bonne idée.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Mathilde, on l'écoute.
Bonjour Jimmy et Mélanie. Bon, je viens à vous parce que j'ai un petit problème. Voilà, j'ai des cystites à répétition. J'ai beau aller aux toilettes à chaque fois que j'ai des rapports, bah, ça change rien. J'ai quand même beaucoup de cystites. J'aimerais savoir si vous avez des conseils à me donner. Merci beaucoup, au revoir.
Mathilde, merci pour votre question. Alors pour vous répondre avec précision, nous avons interrogé le docteur Jean-Marc Bobotte qui était en studio justement avec nous ce lundi. Il est médecin infectiologue à l'Institut Fournier de Paris.
La cystite n'est pas une maladie sexuellement transmissible, donc les rapports sexuels n'interviennent pas comme un facteur de contamination, mais comme plutôt un vecteur. Le conseil, c'est effectivement, elle peut toujours continuer à aller uriner après les rapports sexuels, mais d'une part, c'est pas très glamour, et puis d'autre part, ça change pas grand-chose, effectivement, elle l'a pu constater. Mais par contre, il faut absolument envisager de vérifier s'il n'y a pas un déséquilibre de sa flore vaginale, auquel cas, elle peut utiliser des probiotiques qui sont spécifiques pour la flore vaginale et utiliser des produits à base de plantes. Il y a des produits comme le cranberry, comme le démanose ou comme la cannelle ou comme la bruyère qui sont des traitements qui sont extrêmement fréquemment utilisés et qui donnent de bons résultats à condition de les prendre suffisamment longtemps.
Voilà, c'était le docteur Bobotte au micro de Barbara Silvera Sonigo. Alors Jimmy, on va prendre une seconde de question comme tous les jours. Celle-ci, c'est la question d'Anita, on l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'ai pris un cachet d'ibuprofène qui était périmé en janvier 2021. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois jeter la boîte ou est-ce que ça fait encore effet? Merci de votre réponse.
Jimmy, les médicaments périmés, alors bon j'avoue, moi aussi je crois que j'en ai plein chez moi, comme beaucoup j'imagine. Est-ce que c'est si grave que ça si on prend un comprimé de paracétamol ou autre qui a passé la date?
Alors en temps normal, si un médicament est périmé, il faut le jeter ou encore mieux le rapporter au pharmacien pour qu'il soit recyclé. Mais si finalement vous prenez un comprimé qui est périmé depuis quelques mois, ça ne serait pas si grave que ça. En fait, le principal risque, c'est pas une intoxication, c'est pas des effets secondaires, c'est que finalement, le principe actif se soit légèrement dégradé et donc que le médicament soit un peu moins efficace. Raison pour laquelle on vous recommande de stocker les médicaments à l'abri de la lumière, de l'humidité et d'éviter certaines conditions extrêmes et qui fait que finalement, même lorsque la date est dépassée, il serait malgré tout consommable.
Pourtant, il y a bien une date, hein, Jimmy, sur les boîtes. Ça veut bien dire qu'il faut rester donc vigilant. Et après, ça dépend de la validité du médicament en question. Hein.
Ah oui, la durée de conservation, elle varie effectivement d'un médicament à l'autre. En gros, les comprimés qu'on a à la maison, ils sont valables entre 3 et 5 ans après la fabrication. Mais on s'est rendu compte qu'il pouvait être efficace bien au-delà. Et je vais vous citer votre journal favori, Mélanie, l'Archive of Internal Medicine.
Je crois qu'on dit Archives, Jimmy.
Moi, je dis Archive parce que je suis en français. Et qui a montré que certaines molécules, notamment de la codéine ou de l'aspirine, seraient utilisables 40 ans après la date d'expiration. Alors, la substance active, elle serait présente à plus de 90%, mais évidemment, je ne vous recommande pas de garder vos médicaments 40 ans, c'est pas terrible.
Oui, comme le magazine Archives, vous avez raison. Là, vous nous avez parlé des comprimés, en gros, Jimmy, mais j'imagine aussi qu'il y en a des plus sensibles que d'autres à la conservation de longue durée, quoi.
Alors oui, les plus fragiles sont les médicaments qui vont être liquides ou sucrés, donc les sirops, par exemple, vont être plus fragiles. Même chose pour les collyres pour les yeux, qui vont avoir tendance à se dégrader un peu plus vite. Alors, pas tellement à cause de la température ou de la lumière, mais plutôt en raison du risque de contamination microbienne. Et justement, je vous rappelle que ces médicaments doivent être conservés dans certaines conditions, notamment à la maison.
Alors, c'est-à-dire qu'il vaut mieux les conserver où, les médicaments? Moi, je ne sais pas, l'armoire à pharmacie chez moi, elle est dans les toilettes. Est-ce que c'est bien, Jimmy, ou pas? Est-ce que vous allez tout me faire déménager?
Non, ça va, jusque-là, tout va bien. On n'appellera pas Stéphane Plaza tout de suite.
D'accord.
Les toilettes, c'est pas mal. Les médicaments, ils ont 4,5. L'eau, l'oxygène, la lumière et la température. Du coup, la salle de bain...
Où beaucoup de gens stockent les médicaments, c'est pas une bonne idée. Ah,
chez moi, c'est comme ça. J'ai une petite
docteur, c'est pas bien.
C'est lamentable, je vais changer ça en rentrant. Mais effectivement, la salle de bain, c'est pas terrible parce qu'évidemment, c'est humide et donc le médicament va être agressé et peut-être un peu dégradé en raison notamment de la lumière ou de l'oxygène qui va être un peu différente. Donc attention à ces... zone de stockage. J'ai honte. Hein. Franchement, je suis en train de percuter là.
Donc,
je me dis,
comme Mélanie Gomez et pas comme le docteur Jimmy Mohamed, l'armoire à pharmacie plutôt dans les toilettes ou ailleurs. Merci Jimmy. Si vous aussi, comme le jeune homme qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour dans lequel on va parler de nos fesses, de la beauté de nos fesses, que vous les vouliez plus fines, plus rebondies et même plus galbées. Restez bien avec nous car tout ça est possible et on va vous expliquer comment. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour ce dossier du jour consacré à nos fesses. Hein. Bienvenue, docteur Éric Plot, bonjour.
Bonjour, merci de votre accueil. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Alors, je l'ai dit, on va s'intéresser avec vous à la beauté de nos fesses. C'est si important que ça d'avoir des belles fesses parce que bon, franchement, moi je sais pas, je m'y intéresse évidemment un petit peu toutes les femmes, mais après tout, elles sont derrière mon dos, je les vois pas. Donc, est-ce que c'est fréquent comme ça de les vouloir un peu différentes?
Vous faites genre, comme si c'était pas très grave.
Bah, moi je sais pas, je les camoufle avec un gilet, je me pose pas trop la question quoi.
Bon.
Eh bien, je pense que, si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un spot qui disait « Demain, j'enlève le haut ».
Ouais.
Ben maintenant, on pourrait dire « Demain, je montre le bas ». C'est une demande
tendance,
qui est de plus en plus fréquente. Peut-être aussi sous l'influence des réseaux sociaux, des influenceurs.
Influenceuses,
qui,
surtout.
Et influenceuses, oui. Ouais. Qui... mettre très en avant leur charme à ce niveau-là. Donc, c'est une demande qui est en vraie augmentation.
Est-ce que vous avez vu un effet confinement? Est-ce que souvent, les chirurgiens qu'on a pu recevoir nous ont dit qu'il y a eu une explosion de leur activité parce que finalement, on était à la maison et qu'on pouvait se faire opérer plus facilement? Vous avez eu plus de fesses à opérer ces derniers temps?
Alors, il y a eu un effet du confinement qui est très net par le fait que les gens pouvaient rester chez eux pour les suites opératoires et que c'était beaucoup plus simple. Est-ce qu'il y a eu un effet au niveau des fesses? Moi, je crois qu'il y a un effet au niveau des fesses depuis quelques années, en fait.
Ouais.
En particulier parce que...
c'est devenu un objet de séduction au même titre que les seins, maintenant, hein, c'est ça?
C'est devenu un objet de séduction. Ouais. C'est quelque chose qu'on montre beaucoup plus facilement qu'avant. Il y a des photos, on voit les jeunes femmes qui se montrent de plus en plus en photo sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc moi, je dirais que c'est une demande qui explose. Et puis nous, chirurgiens, on a peut-être aussi un peu plus tendance à la proposer qu'auparavant. Par exemple, moi aujourd'hui, quand je fais une liposuction, eh bien, la graisse que j'enlève en liposuction, j'ai du mal maintenant à me dire que je vais...
On ne va pas
la jeter.
Ça peut
Exactement.
Servir, oui.
Et je me dis, pourquoi pas la réinjecter dans les seins ou dans les
fesses. Vous devenez écolo, alors, quelque part.
Ben, on devient un peu écolo.
Du recyclage.
Et on parle des femmes, mais est-ce que vous avez des demandes aussi chez les hommes? Est-ce que certains demandent à avoir des fesses plus galbées au travers de la chirurgie?
Alors, c'est une demande qui existe, qui, à mon avis, se fait à peu près dans les mêmes proportions que pour la chirurgie esthétique entre les femmes et les hommes. Elle est beaucoup moins fréquente, elle existe. Moi, je n'ai pas une très importante clientèle masculine, donc je ne suis pas un bon exemple pour parler de ça. Mais oui, c'est une demande qui existe, certainement. Oui.
Vous dites surtout des femmes, probablement, surtout souvent influencées par les réseaux sociaux. Elles ont quel âge, celles qui viennent pour cette demande-là, avant même que vous leur proposiez de réinjecter de la graisse éventuellement? Il y a une tranche d'âge en particulier pour les fesses?
C'est une tranche d'âge très large qui peut commencer dès 20 ans.
Ah oui.
Chez la jeune fille qui, comme elle voulait une augmentation mammaire, peut vouloir une augmentation des fesses. Et puis, c'est une intervention qui peut être demandé de façon jusqu'à un certain âge.
Pas à 70 ans quand même.
Non, pas à 70 ans, mais on a des femmes de 50 ans qui viennent nous voir pour des fesses, souvent parce qu'elles ont beaucoup maigri et qu'aussi ça a modifié le volume des fesses et que les fesses sont tombantes. Donc c'est une demande assez large. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est quand même une demande qui, je pense, touche essentiellement 20-35 ans. Je dirais que c'est la cible.
Est-ce qu'il y a une
période... J'ai passé l'âge, c'est bon.
Oui, tout juste. Est-ce qu'il y a une période dans l'année où il faudrait faire cette intervention? Est-ce que là, on est dans les temps avant l'été, là, dans un ou deux mois?
Si je le fais maintenant, est-ce que je serai montrable
en fait,
sur la plage?
En fait,
ça dépend un peu du type d'intervention qu'on va proposer et que vous allez choisir. Mais oui, c'est encore jouable. Après, une période de l'année, c'est surtout une période dans la vie de la patiente. C'est-à-dire que si vous me dites, je pars en vacances dans 15 jours, je vais faire du sport, je vais escalader l'Everest, je vais vous dire, non, c'est pas le moment. Quoi.
Oui, clairement.
Mais si vous vous dites, je vais passer des vacances au calme, finalement, c'est un moment où je peux plus me reposer, ben oui, c'est une bonne indication.
Il y a des patientes pour qui c'est un nom d'office, hein, comme les mineurs, par exemple, j'imagine, pour les autres interventions, c'est pareil. Ou est-ce que carrément aussi, il y a peut-être des demandes au niveau des fesses qui sont totalement farfelues et qui vous font poser comme ça le veto?
Alors, il y a toujours un nom d'office. Parce que d'abord, à la SOFCEP, on est des chirurgiens sérieux et que le profil psychologique de nos patients, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Donc, les gens qu'on trouve fragiles psychologiquement,
c'est non.
Les mineurs, bien entendu, c'est non. Les demandes irréelles. Alors, c'est une bonne question.
Est-ce qu'on vous demande des grosses fesses, en fait?
Énorme, parce que moi, il y a des trucs sur les réseaux sociaux qui m'effraient, franchement.
On a Kim Kardashian en
il y a pire,
en esprit.
Mais
est-ce qu'on vous demande des fesses de plus en plus grosses?
Alors, ça, c'est ce qu'un de mes confrères qui me fait rire appelle les augmentations fessières scandaleuses. C'est vraiment le pouce au scandale.
Mais il y a des trucs qu'on voit à la télé sur des nanas dans des téléréalités, c'est effrayant, franchement.
Mais moi, ça m'effraie aussi.
Ouais. C'est pas je me demande toujours qui sont les chirurgiens qui les opèrent, quand même.
Il y en a. Pas tant que ça. Et je ne suis pas sûr que ce soit une demande de beaucoup de Françaises. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même toujours... La majorité des gens, bien sûr, il y a des exceptions, mais la grande majorité des gens, c'est « je veux une augmentation raisonnable. Je le fais d'abord pour moi. Je veux quelque chose de raisonnable, voire de sexy. » Voilà, scandaleux, c'est peut-être une étape qui se voit moins.
Est-ce qu'il y a différentes formes de fesses pour les seins? On parle
vous connaissez
souvent
les formes de seins différentes.
Non, oui, la pomme, la poire, mais est-ce que pour les fesses, il y a plusieurs types de fesses?
Oui, bien sûr, il y a différentes formes de fesses. Il y a des fesses qui peuvent être carrées, des fesses qui peuvent être un peu triangulaires, etc. Donc c'est pour ça que la chirurgie des fesses, c'est pas une chirurgie univoque. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de remodelage qui peut être fait sur la fesse. Il y a la projection qui peut être donnée par les prothèses ou par des injections de graisse, mais il n'y a pas une demande univoque. De même, une fesse très tombante, on peut être amené à proposer un lifting de la fesse pour remonter la fesse, pour déjà lui redonner une certaine forme avant de parler d'un volume.
Bon, justement, on va rentrer dans le détail, docteur Plot. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on vous détaille les interventions esthétiques possibles au niveau de notre popotin. Comment regalber les fesses, les remonter peut-être ou encore les affiner. On va tout vous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau, il est toujours avec nous, c'est vous, docteur Éric Plot. Je rappelle que vous êtes chirurgien plasticien, membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors on va prendre le bistouri à présent, ou plutôt la seringue d'ailleurs, parce qu'on va peut-être démarrer par ce qui ne se passe pas au bloc justement. Il y a des choses moins invasives qu'on peut faire pour remodeler ses fesses, pour augmenter leur volume avant la pose d'implant dont on parlera tout à l'heure. Vous disiez on peut faire des injections, mais des injections de quoi? Il y a plusieurs sortes.
Alors, d'abord, avant de faire des injections, il y a déjà quelque chose qu'on peut faire, c'est aller en salle de sport et travailler ses
fessiers. Je savais qu'il allait finir par le dire, ça.
Mais oui, mais parce que les fesses, à la différence des seins, ça se muscle.
Bien.
Les seins, vous ne pouvez pas muscler un sein. Les fesses, vous pouvez quand même muscler vos fesses. Et moi, je vois autour de moi beaucoup de femmes de 40-45 ans qui, d'ailleurs, avec le confinement, se sont remis au sport à la maison et qui vous disent « moi, mes fesses, elles se sont regalbées, elles ont repris du volume parce que j'ai travaillé mes fessiers, que je l'ai fait de façon sérieuse et de façon répétée. » Alors, ça ne donne pas des augmentations de volume très importantes, mais en tout cas, ça raffermit les fesses et ça leur donne un aspect plus sexy, de fesses un peu plus fermes.
Donc ça, c'est déjà la première chose.
Là, donc là, déjà, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et moi, je le dis souvent aux patientes. Des fois, je leur dis « faites un peu de sport, allez en salle. » Parce que ce que vous demandez, c'est pas énorme.
Ils disent « allez hop, bougez un peu. »
Non, pas toujours. Parce que je pense qu'il faut bien faire entendre. Il ne faut pas toujours entièrement se reposer sur la chirurgie esthétique. Il y a aussi d'autres choses que la chirurgie esthétique.
Et justement, tout à l'heure, vous parliez, lors d'une liposition, vous proposez de réinjecter, par exemple, la graisse dans les seins ou dans les fesses. Ça veut dire qu'on peut s'injecter de la graisse dans les fesses. On prend sa propre graisse.
Je vous donnerai pas la mienne. Voilà, cherchez pas,
elle est
à moi.
Chez un voisin.
La garde.
Non, ouais, c'est ça. C'est
ah non, c'est piocher chez un voisin. C'est une autogreffe. Donc, c'est forcément votre graisse que vous allez réinjecter à un endroit particulier.
Donc, il faut avoir de la graisse en excédent.
Exactement, il faut avoir de la graisse en excédent. Et c'est bien tout le problème. Moi, je vois arriver des patientes, et ça très souvent, qui, pour les seins, beaucoup plus que pour les fesses, mais aussi pendant un temps pour les fesses, disent « moi, je ne veux pas de prothèse, pas de corps étranger, donc il faut me faire des réinjections de graisse. » Mais quand vous les examinez...
Vous n'en avez pas, madame.
C'est des personnes qui sont très sèches, qui sont très minces et qui n'ont absolument pas de réserve en graisse. Donc,
bon, pour celles qui ont un peu des réserves, comme moi, vous iriez la prendre où, la graisse, pour la remettre dans les fesses?
D'abord, quand on fait un travail sur la fesse, en fait, on fait un travail sur la fesse, mais on fait un travail sur les zones aux alentours. C'est-à-dire que déjà, un très bon moyen de faire ressortir les fesses, c'est d'affiner la taille. D'affiner ce qu'il y a au-dessus, d'affiner une culotte de cheval quand il y en a, pour vraiment redessiner la fesse.
Et finalement, en enlevant les poignées d'amour,
en enlevant les poignées d'amour, exactement, en enlevant tout ce qu'il y a autour, on va redéfinir la fesse, on va lui redonner ses limites qui parfois sont perdues par les excès graisseux qu'il y a aux alentours.
Ça veut dire que vous avez fait une liposuction systématiquement, on peut pas juste prendre, parce que dans l'image, dans ce qu'on peut penser, c'est qu'on va prendre une seringue, on va prendre un peu de graisse,
donc ça
d'un
passe
bourrelet,
au bloc,
et qu'on vous réinjecte. Non, ça passe par une intervention chirurgicale au bloc opératoire.
Ouais, et puis d'abord c'est pas un peu de graisse, parce que
il en faut combien,
un volume des fesses, il faut un certain volume de graisse.
Dans une bouteille d'eau, par exemple, d'un litre et demi là.
Non, dans une bouteille d'eau d'un litre et demi. Alors il y en a qui, c'est une autre discussion parce qu'il faut pas saturer non plus la fesse en graisse et c'est un peu la limite du lipofilling. Mais il y a des gens ce que je ne partage pas, hein, mais qui vont mettre jusqu'à 600, 800 cc de graisse par fesse. Ce qui est, à mon avis, une aberration, etc. Mais les Américains, les Sud-Américains,
donc
les Brésiliens,
ce qu'ils
appellent le
Brazilian
Botox Lift, hein, dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, le BBL, c'est ça. Et c'est des gens qui se font injecter les fesses de façon monumentale, avec des risques.
C'est quoi le risque ?
On en reparlera. C'est dangereux d'injecter de la graisse. C'est dangereux si on l'injecte partout. Il y a des zones qui sont des zones dangereuses dans lesquelles il ne faut pas injecter de la graisse parce qu'il peut y avoir des complications très graves, en particulier des embolies graisseuses.
Ah ouais.
Et puis une embolie graisseuse, ça peut être mortel. Donc, c'est un apprentissage, ça se fait très bien. Il ne faut pas saturer la fesse en graisse. Il faut l'injecter dans des zones bien précises.
Où, par
exemple ?
Il y
a des zones qui sont surtout sur la partie supérieure des fesses et sur la partie externe.
D'accord.
En revanche, on évite la partie inférieure des fesses, on évite les cadrans internes. Là, on sait que c'est dangereux. Il faut l'injecter au-dessus du muscle, pas sous le muscle. Donc, c'est un apprentissage.
Et puis, il faut que ce soit symétrique. C'est difficile, ouais. Non ? Puisqu'en plus, la patiente, elle est allongée
sur le ventre.
Il faut vous projeter sur ce que c'est.
Vous faites le sculpteur, quoi. Vraiment, vous allez sculpter.
Oui, on sculpte. Ouais. Alors après, on essaye, quand les fesses sont symétriques, de mettre à peu près les mêmes quantités de chaque côté. Et puis, c'est un vrai travail on parle de liposculpture. C'est un vrai remodelage de la silhouette. Hein. Et donc, la graisse, on va aller la prendre. Au niveau des poignées d'amour. Et aujourd'hui, les patientes, ce qu'elles aiment, c'est avoir une taille très fine, très définie. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment à nouveau le BBL, le Brazilian Botox Lift. Une taille très, très, très fine. Elles se font presque enlever des côtes, j'exagère, tellement elles veulent avoir une taille fine. Et au contraire, avoir un fessier qui ressort. Et donc, la réserve de graisse, elle vient du dessus. Et en plus, quand on prélève cette réserve de graisse du dessus, eh bien, du coup, ça marque encore plus la démarcation entre le bas du dos et les fesses.
Est-ce qu'on peut injecter des produits de comblement type acide hyaluronique pour regalber ? Je crois que vous n'êtes pas très fanat de ça. Hein.
Alors, ça existe. Il y a un produit de comblement qui est de l'acide hyaluronique qui est dédié au corps et à la fesse. D'abord, ça coûte très cher. Parce que vous imaginez bien qu'il faut une certaine quantité. Ce n'est pas comme dans le visage où on va mettre des petites seringues d'un cc. C'est minimum des seringues de 20 cc et il en faut une certaine quantité. Ensuite, c'est un produit résorbable.
Donc l'effet n'est pas durable.
Donc l'effet n'est pas durable. Et une seringue de 20 cc, le coût aujourd'hui, enfin moi j'en fais
ça ferait combien
très
à peu près
mais une seringue de 20 cc c'est 300 euros.
Oui.
Sachant qu'il faut un minimum, à mon avis, de 5-6 seringues par côté pour commencer à avoir quelque chose de joli.
Donc ça commence fois à
deux,
chiffrer,
ça fait 12 seringues, plus l'acte du chirurgien, etc.
La graisse est plus écolo, moi ça me va très très bien. Mais l'intervention dure combien de temps, bloc opératoire ? Est-ce que c'est long ?
De remodeler avec de la graisse,
C'est long parce que d'abord il y a le temps de liposuction. Ensuite, il y a un temps de préparation de la graisse, et moi je suis très attaché à ça. Il ne faut pas imaginer qu'on prend une seringue, qu'on prélève sa graisse et qu'on repousse la seringue de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on faisait peut-être il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a tous pris conscience qu'il fallait purifier cette graisse, la travailler, la débarrasser d'un certain nombre d'éléments qui l'entourent, des cellules sanguines, etc. Donc il y a un temps de filtration et de réinjection.
Très bien, docteur Plou. On va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Vous restez là.
Europe 1.
Sans rendez-vous, revient dans un instant. On va poursuivre cette émission sur la beauté de nos fesses, tout ce que la médecine, mais surtout la chirurgie, on va y venir, nous permet aujourd'hui pour resculpter, remettre du volume, pour un résultat au top en maillot de bain cet été. Et oui, on se projette déjà un peu sur la plage cet après-midi et ça fait du bien. Alors restez avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous, il est toujours à nos côtés dans ce studio. Notre invité du jour, c'est vous, docteur Éric Plou. Je rappelle que vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors justement, on va passer à l'intervention chirurgicale. J'allais dire, on va passer au lourd, mais pas forcément. Vous allez nous expliquer. Pour opérer des fesses, on peut aussi avoir à poser finalement des implants pour regalber tout ça. Là, comment ça se passe ? On nous installe sur le ventre. C'est une opération qui dure combien de temps ? Et qu'est-ce que vous faites concrètement ?
D'accord. Alors effectivement, quand on n'a pas de volume par la graisse, on est obligé d'utiliser une
prothèse.
Surtout
qu'on a compris qu'il en fallait des quantités parfois importantes.
Voilà, donc on utilise une prothèse de fesse. La prothèse de fesse, c'est un peu le même principe que la prothèse pour les seins. Ça va être une prothèse en silicone avec un gel qui va être plus dur et plus ferme qu'une prothèse de sein, avec une enveloppe qui va être plus solide. Cette prothèse, on va l'introduire par une cicatrice qu'on va faire dans le sillon interfessier, une ou deux, parce que souvent on aime bien faire une cicatrice pour la fesse droite, une cicatrice pour la fesse gauche, et on va la placer.
Donc elle est cachée dans le string, si on mettait un string.
Exactement,
quoi, hein, voilà,
elle est complètement cachée. C'est une cicatrice qui fait 5-6 cm, qui peut être un peu longue parce qu'il faut quand même une voie d'abord, c'est pas une prothèse très souple, il faut quand même une voie d'abord assez importante, mais la cicatrice elle est cachée. Et on va aller glisser la prothèse soit dans l'épaisseur du muscle, selon les techniques qu'on utilise, soit sous le muscle grand fessier, c'est-à-dire
comme pour les seins,
le
finalement. Hein, des fois c'est dessus, des fois c'est dessous.
Alors,
je crois.
Pour les seins, c'est au-dessus du muscle ou sous le muscle. Pour la fesse, c'est ou dans l'épaisseur du muscle ou sous le muscle. On met pas, enfin ça existe la technique où on les met ce qu'on appelle en sous-facial, C'est une technique qui a abandonné parce qu'il y avait une visibilité de l'implant qui était horrible, des déplacements de l'implant, etc. C'est pas si facile que ça, la prothèse de fesses. Ça nécessite une certaine expérience. Il y a beaucoup de chirurgiens qui ne le font pas et je peux parfois les comprendre parce que c'est une chirurgie un peu pas tellement compliquée techniquement, mais où il peut se passer des choses après. C'est-à-dire qu'en particulier, comme la prothèse elle est dans le muscle ou après le muscle, eh ben, il peut y avoir des déplacements un peu secondaires de la prothèse, des rotations de la prothèse qui tournent sur elle-même. Le muscle fessier, c'est un muscle qui bouge beaucoup. Le muscle des seins, quand on les met derrière le muscle pectoral, à moins de faire de l'escalade tous les jours chez toi, même pas de la zumba, c'est vraiment des, certains mouvements comme l'escalade qui peut faire bouger un peu
les fesses
la prothèse.
Mais les fesses quand on marche, enfin tout le temps.
Voilà, quand on marche, quand on court, quand on s'assoit.
S'assied dessus,
quand on... Donc c'est une chirurgie un peu compliquée, c'est pas une chirurgie.
Il vaut mieux aller chez un professionnel qui en fait beaucoup.
Ouais, il faut exactement. Et il y a pas tant que ça des chirurgiens qui en font beaucoup.
Et cette prothèse, on peut la garder combien de temps, puisque on va s'asseoir, on va bouger, on va courir, on va parfois tomber. Est-ce qu'elle va s'user de façon prématurée par rapport à une prothèse de sein?
Non, parce que elle est quand même protégée par le muscle pour le coup. Donc l'usure de la prothèse, on n'est pas très inquiet.
Elle est plus costaud en plus que la prothèse mammaire.
Plus costaud que la prothèse mammaire. C'est pas des prothèses qui font des plis, donc elle va pas s'user. Elle va
être peut-être toute la vie.
C'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui, on a quoi comme recul sur les prothèses de fesses?
Vous en faites quoi depuis 10 ans?
Donc c'est difficile à dire.
On imagine qu'il faudra les changer.
C'est une question qu'on se pose sur le vieillissement, etc.
Ça veut dire que si je pose ma prothèse à 20 ans, vous n'allez pas laisser la petite dame, à mon avis, jusqu'à 70 ans avec ses prothèses de fesses.
Écoutez, je ne sais pas. Peut-être que oui. Vous savez, c'est un peu comme les prothèses de seins. Aujourd'hui, les prothèses de seins, tant qu'elles vont bien cliniquement, tant qu'elles vont bien en échographie...
10 ans en général, mais ça peut être plus.
Ça, c'est plus vrai. On dit plus 10 ans aujourd'hui pour des prothèses de seins.
On les surveille, elles sont en bon état.
Moi, j'ai plein de patientes qui ont des prothèses de 20 ans. Et
elles sont nickel.
Merci, elles vont très bien, on ne les touche pas.
Et est-ce que c'est une intervention douloureuse? Comment est-ce que ressort une patiente après ce genre d'intervention?
Mal aux fesses.
Je ne peux pas s'asseoir, pas travailler.
Je vais vous dire, c'est pas une intervention si douloureuse en post-opératoire immédiat. Parce que d'abord, quand on met la prothèse, on infiltre un anesthésiant à durée prolongée.
Vous nous chouchoutez pendant l'intervention.
Donc voilà. Et on les fait marcher finalement assez vite. Oui. Et donc, on les garde une nuit. J'ai des confrères qui le font en ambulatoire et je trouve que leur raisonnement n'est pas idiot. Alors, il peut y avoir l'hématome et tout, mais en disant il faut qu'elles reprennent une activité très vite. Après, en post-opératoire, elles ont mal. On leur demande de dormir sur le ventre, de ne pas dormir
pendant
sur leurs fesses.
Pendant combien de temps? Une bonne semaine peut-être?
Une bonne quinzaine de jours, voire un peu plus en fonction de l'évolution. On leur demande quand elles s'assoient de s'asseoir sur leurs cuisses et de ne pas s'asseoir sur leurs fesses. Donc les suites opératoires ne sont pas si simples que ça.
Ça se réfléchit quand même avant
de faire. On leur demande surtout de ne pas reprendre le sport. Et c'est là que c'est un peu la difficulté de l'intervention. C'est-à-dire qu'on leur demande vraiment de rester calme. Ces patientes, il faut quand même que pendant un certain temps, elles restent calmes, elles refassent pas d'activité sportive. Et souvent, quand vous dites à une jeune patiente qu'il ne faut pas faire de sport, c'est là que le bas peut
un peu
bloquer.
Et vous avez quoi comme niveau de satisfaction? Est-ce que les patientes, elles sont contentes du résultat à la fin? Est-ce qu'elles disent c'est exactement comme je l'imaginais? Ou finalement, elles disent j'aurais peut-être dû attendre. Est-ce qu'elles sont contentes?
Non, globalement, elles sont contentes. Après. Je ne vous cache pas que c'est une chirurgie où il y a des révisions, parce qu'on a des déplacements secondaires des prothèses. Donc
on doit s'y reprendre
Parfois, elles font un flip-flop, il faut repositionner la prothèse. C'est un peu comme pour toutes les interventions de chirurgie esthétique, mais une fois qu'elles sont au courant, une fois que la prothèse s'est bien passée, et bien positionnée, oui, les patientes, elles sont contentes.
Un mot sur le prix pour terminer. Combien ça coûte environ, en moyenne? Parce qu'on sait bien que d'un chirurgien à l'autre, ça peut varier, puis même d'une ville à l'autre.
Oui, puis selon l'expérience du chirurgien aussi.
Se faire poser deux prothèses de fesses, parce qu'en général, j'imagine qu'on pose les deux, c'est ça?
Souvent.
J'aurais pu répondre à la question, je pense.
Souvent. Ça coûte entre 7 et 10 000 euros, je pense.
D'accord. Donc c'est quand même un investissement, puis une chirurgie qui se réfléchit.
C'est une chirurgie qui se réfléchit. Enfin, moi, perso, je dis pas oui tout de suite.
Prenez le temps de la réflexion, Mélanie.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Plon, d'avoir répondu à nos questions pour toutes ces précisions sur ces techniques chirurgicales ou non qui permettent d'améliorer nos fesses si on le souhaite. Bonne continuation à vous et merci encore.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien avec un focus du docteur Jimmy Mohamed sur la vitamine D. À quoi sert-elle dans notre organisme? Pourquoi nous est-elle indispensable? Et d'ailleurs, comment savoir que vous êtes peut-être carencé? Il va tout nous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique, les bobos du quotidien, avec un éclairage cet après-midi que pas tellement un bobo, la vitamine D. Mais bon, si on n'en a pas assez, ça peut devenir compliqué. Alors, savez-vous à quoi elle sert vraiment dans notre organisme, cette vitamine? Est-elle indispensable pour nos os? Ça, on le sait, mais pas seulement, on va voir. Et d'ailleurs, comment savoir qu'on en manque, puisqu'il paraît que plus de la moitié des adultes sont carencés? On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silvera Sonigo.
Alors la vitamine D, c'est un apport énergétique.
C'est pas tout ce qui est laitage, fromage, poisson également.
C'est quelque chose qui est amené en fait normalement par l'alimentation et qui permet la consolidation osseuse.
Pour en avoir dans notre corps, il faut se mettre au soleil, il faut bien manger, il faut faire du sport.
Il faut prendre le soleil, parce que si on absorbe de la vitamine D mais qu'on n'a pas le soleil pour effectuer la synthèse, et ben c'est perdu.
Je sais qu'en été on en a beaucoup moins besoin parce que justement il y a déjà beaucoup de soleil comme ça.
Je pense qu'elle joue sur notre humeur.
Ça permet aussi d'éviter l'ostéoporose.
La carence en vitamine D peut entraîner la mauvaise humeur, de la fatigue.
Je pense que pour les os, c'est très néfaste.
Une fatigue importante, voire une forme de dépression.
Pas beaucoup de pêche, quoi. Pour éviter justement le manque de soleil, il y a des ampoules de vitamine D.
C'est en pharmacie obligatoirement et prescrit par un médecin.
Bon, pas beaucoup de pêche, ils disent. On va voir, vous en êtes plein de pêche, hein, Jimmy. Je sais pas si c'est grâce à la vitamine
D. Mais ils sont pas mal, hein, franchement.
Ils sont bons, hein, aujourd'hui.
Ils ont appris de nous. Je pense que c'est une mission accomplie.
À mon avis, que des auditeurs fidèles de ce rendez-vous. Alors, Jimmy, la vitamine D, d'ailleurs, on en a pas mal entendu parler là depuis un an avec l'épidémie de Covid. On va y revenir. D'abord, c'est quoi la vitamine D?
Alors, c'est une vitamine. Ça veut dire que le corps ne peut pas la synthétiser et qu'on a besoin d'en absorber. Alors, elle est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme, mais sa fonction principale, c'est d'augmenter les concentrations de calcium. Et en fait, le calcium a une importance notamment pour la minéralisation du tissu osseux. On le sait, si vous avez du calcium,
vous
allez avoir...
Vous disiez tissu osseux, vous ne pouvez pas dire les os,
Jimmy. Mais pourquoi ça a une importance? C'est parce qu'il y a plein d'autres tissus, notamment les dents ou le cartilage.
Ah,
et le calcium, c'est aussi très important pour ça. C'est pour ça qu'on parle de tissu. Vous voyez, vous faites la maligne, mais finalement, il y avait une explication.
D'accord.
Mais ce n'est pas que ça. On sait que vous en avez besoin pour la contraction musculaire, mais aussi pour la transmission des nerfs et puis aussi pour la coagulation.
Wow.
Donc finalement, cette vitamine D, elle sert à plein d'autres choses.
Wow, c'est incroyable, effectivement. Concernant la Covid, justement, j'y reviens, Jimmy. Certains ont dit qu'il fallait se supplémenter à un moment donné pour éviter l'infection ou alors qu'il fallait en prendre pour guérir plus vite. On en sait quoi de ça aujourd'hui?
Alors, c'est une erreur. On a observé que les malades graves en réanimation étaient carencés en vitamine D. Et certains ont fait le raccourci de se dire, bon bah, s'ils sont en réanimation avec une carence en vitamine D, si on leur en donne, on va éviter les formes graves.
Sauf qu'on est presque tous en carence, en
Exactement,
fait.
Exactement,
hein,
on est tous en carence. Et les études montrent désormais avec force que la vitamine D ne prévient pas des formes graves de coronavirus. Par contre, on sait que la vitamine D a d'autres rôles que celles liées à l'ostéoporose et à un bon tissu osseux. Donc, il y a un rôle dans l'infection, mais pas dans le Covid.
Donc, ça joue un rôle dans notre immunité quand même, la vitamine D?
Exactement, on sait que ça a un rôle dans d'autres circonstances. La régulation des hormones, la régulation aussi des cellules cutanées, mais aussi dans le système immunitaire. Et on s'est rendu compte justement que chez les jeunes de moins de 16 ans, c'est des études qui montrent ça, qui n'ont pas de carence en vitamine D, eh bien, ils font un peu moins d'infections respiratoires, un peu moins de rhinopharyngite. En revanche, pour le Covid, je tiens à le répéter, la vitamine D, à l'heure actuelle, ne prévient pas des formes graves.
Docteur Mohamed, pour terminer, on la trouve où cette vitamine D? Évidemment, il faut s'exposer au soleil, mais est-ce qu'il y en a aussi dans notre alimentation?
Oui, le soleil, 15 à 20 minutes tous les jours et un tiers du corps exposé. Ça veut dire qu'avec le masque, eh bien, même en restant dehors toute la journée, vous allez être en carence. Donc, nous sommes tous en carence. Ensuite,
lever les manches, la chemise, par exemple.
Pourquoi pas, exactement, voilà. Ou soulever le t-shirt quand on pourra aller à la plage, éventuellement, si le bide le permet. En tout cas, moi, j'ai encore du sport à faire. En tout cas, dans l'alimentation, vous pouvez en trouver dans les poissons
honnête,
gras,
j'adore ça,
oui,
chez vous, Jimmy.
Dans les produits laitiers qui sont riches en vitamine D, le jaune d'œuf, le chocolat ou encore les céréales. Ou sinon, il existe des petites gougouttes pour vous supplémenter en vitamine D.
Bon, comment on sait qu'on est carencé? Est-ce que ça vaut le coup de faire une prise de sang?
Partez du principe qu'on est tous carencés, qu'il faut vous supplémenter, en particulier les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les sujets à peau noire qui vont moins synthétiser cette vitamine D. Donc, allez chez le pharmacien, demandez des petites ampoules
petites
sans
gougoutes.
Prescription. Les petites gougouttes, Mélanie.
Allez, très bien, merci Jimmy pour les gougouttes et surtout pour ces explications.
Europe.
Dans un instant, sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, qui nous rejoint en studio. Alors Catherine, il va falloir répondre aujourd'hui à la question d'Aurélien. Je vous la lis. J'ai très envie de tenter un plan à trois avec ma femme, mais j'ai peur qu'elle se vexe. Ça a toujours été un vrai fantasme pour moi. Et maintenant que notre vie sexuelle tourne un peu en rond, je me dis que c'est le moment. Vous en pensez quoi? Catherine, alors les fantasmes, on en a parlé la semaine dernière, des fantasmes en général. Avouable ou non, c'est chacun les siens, mais c'est aussi agréable de pouvoir en parler parfois. Là, on a l'impression qu'il a vraiment envie de tenter le coup, quoi.
Oui, alors c'est ça. On est toujours tenté d'en parler et à la fois c'est toujours un petit peu touchy parce qu'on a toujours peur de blesser l'autre, de brusquer l'autre, de vexer l'autre. Là, évidemment, en plus dire que c'est parce que ça tourne en rond qu'on va en parler,
c'est un peu vexant pour sa femme,
que ce soit une bonne nouvelle. Après, peut-être qu'elle aussi, elle attend aussi des propositions et des choses un petit peu coquines. De là, c'est assez classique, c'est presque redondant, c'est presque ennuyeux de se dire que le truc, c'est le plan A3, parce que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas coché cette case. Surtout qu'encore une fois, le plan A3 est rarement proposé par les hommes comme étant deux hommes, une femme. Donc, c'est sûr que du coup, c'est potentiellement un peu plus vexant pour la femme qui a le sentiment vraiment qu'elle ne peut y suffire. Donc, soyons prudents.
Oui, parce qu'à l'entendre, Aurélien, là, quand il dit « notre vie sexuelle tourne un peu en rond », on a l'impression que ce fantasme, c'est un peu pour les mauvaises raisons, qu'il aurait presque envie d'un plan à deux avec une maîtresse, en fait, tout simplement, d'aller voir ailleurs et que là, pour sa culpabilité, sa bonne conscience, il se dit « allez, je la mets avec moi et puis si elle est d'accord, ok, puis sinon, bah, j'irai voir ailleurs ».
Oui, parce que si ça, effectivement, ça tourne un peu en rond, ça veut donc dire qu'il s'ennuie un peu avec elle et que tout d'un coup, il faudrait qu'il y ait un feu d'artifice, sauf qu'il ne veut pas pour autant tout foutre en l'air. Voilà, donc il faut être prudent parce que pour que ce soit accueilli agréablement, il faut évidemment être valorisant de l'autre pour qu'il puisse partager ce fantasme, si tant est qu'il soit partageable. Il faut quand même que l'autre ait le sentiment d'être actrice de la situation et pas subissante pour sauver ce qui reste peut-être encore à sauver de sa relation. Donc là, il n'a pas dit que c'était dramatique, il a dit que ça tournait un peu en rond, mais c'est le cas de tous les couples.
Et ça tourne peut-être en rond pour elle aussi, parce que d'ailleurs, lui, il dit qu'il s'ennuie, mais peut-être qu'elle aussi, elle se fait chier, quoi, en fait. Hein, donc,
non, mais bon. Et la solution, c'est jamais le plan A3, vous pensez, dans ce genre de situation où bah, le couple s'essouffle
En tout cas, c'est pas directement ça. C'est-à-dire, c'est déjà de se dire qu'on trouve que ça tourne un peu en rond. Déjà, c'est une bonne...
base de discussion, déjà.
Voilà, tu trouves pas qu'on s'est un peu...
On ronronne.
Est-ce que ça te plaît toujours autant? Est-ce que tu trouves ça très excitant? Est-ce qu'on s'est pas mis un peu dans nos chaussons? Et peut-être qu'elle répond.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, ouvrir le champ des possibles, sans forcément dire le plan A3, c'est ça?
Exactement. Parce que sinon, c'est assez brusque, puisque c'est faire rentrer un tiers, comme s'il n'y avait pas matière entre ces deux personnes de créer quelque
ensemble.
Chose.
Ouais, c'est
absolument.
Ça.
Est-ce que cette histoire de plan A3, c'est plus un fantasme d'homme que de femme? Parce qu'on a l'impression que ça revient assez souvent. Pourtant, les hommes n'ont qu'un seul zizi, sauf erreur de ma part. Et donc, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut. Non, mais comment est-ce qu'on veut absolument combler deux, trois femmes? Alors, déjà, il faut s'en occuper d'une. Je trouve que c'est déjà.
C'est dire le zizi. Dire, justement, c'est que c'est plus un zizi, c'est un super phallus.
C'est ça, d'épée magique. Alors...
Non, c'est aussi un fantasme. De toute façon, être à trois, c'est un fantasme qui n'est pas genré, puisque ça veut dire être la source d'intérêt de deux personnes. Sauf que c'est souvent proposé par les hommes, avec souvent l'intervention de deux femmes. Et à moins que la femme, l'autre, celle, l'officielle, ait des goûts et des envies de tester quelque chose de l'ordre de l'homosexualité, finalement, c'est tout en direction de cet homme-là. C'est être deux geishas en direction d'un seul et même homme. Donc, c'est souvent proposé comme ça parce que ce sont souvent aussi les hommes qui expriment plus leurs fantasmes que les femmes. Et donc, évidemment, tout ça. Et quand on propose un fantasme, c'est toujours un peu dans sa direction. C'est assez logique. Donc, même s'il proposait deux hommes et une femme, ça poserait la question pour cette femme de savoir s'il avait envie justement de quelque chose qui tende vers quelque chose d'un peu ambigu pour lui, ce qui pourrait l'inquiéter elle aussi.
Bon, Catherine, quelle que soit la combinaison choisie, deux hommes, une femme, deux femmes, une femme, bon, peu importe, est-ce que c'est, il doit lui en parler ou vaut mieux qu'il s'abstienne? Je pense qu'il s'abstient, non?
Je crois que c'est quelque chose qui se... Voilà, je pense que...
Alors, on va conclure que c'est pas une bonne idée, non?
Je non, sais mais pas. C'est de toute façon, si, on peut en parler, mais le truc, c'est qu'il faut qu'on en parle à deux, ouais. Justement, et donc pour ça, il faut parler, pour que ça émerge de la conversation à deux, et pas que ce soit une sorte d'obligation pour la pérennité de la relation et puis de stigmatisation de décidément elle est coincée, elle comprend rien, elle est jalouse, ce qui va aggraver peut-être ce qui n'est que tourné en rond aujourd'hui qui s'avérera être quelque chose d'un peu plus inquiétant pour ce couple. Donc on parle d'abord du fait que ça tourne un peu en rond, on cherche des solutions et puis le cas échéant ce peut être une solution, pourquoi pas.
Très bien, on laisse toutes les possibilités ouvertes. Voilà,
voilà, mais
merci à deux. Beaucoup Catherine pour tous ces conseils et je vous dis donc à demain.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
C'était Sans rendez-vous avec Agipi. Pour vous protéger des aléas de la vie, découvrez l'assurance prévoyance Cap Agipi auprès d'un agent AXA et sur agipi.com.
Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Tous les jours de 16h à 18h, ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Oh, cet après-midi, on va allumer le feu, n'est-ce pas Stéphane?
Oui, avec Johnny.
Vous faire Johnny, évidemment.
Vous avez ressuscité Johnny.
Je vais le ressusciter.
Oh, bah, ça va faire plaisir à tout le monde. Eh bien écoutez, moi je parlerai de gens qui ont un rapport plus simple avec le feu. L'homme de Cro-Magnon, qui l'a inventé, qui a créé le foyer en quelque sorte, hein, pour faire cuire la nourriture. Et puis Jules Bergeret, alors lui, c'est pas mon copain.
C'est notre idole,
ça.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
C'est un général de pacotille qui, pendant la Commune de Paris, a cru bon de faire brûler le palais des Tuileries et le Louvre.
Voilà. Le vilain.
Bon, le Louvre a résisté, mais pas le palais des Tuileries, il n'en reste rien.
Merci beaucoup à tous les deux. On sera bien sûr à vos côtés sur Europe 1 et vous aussi qui nous écoutez, restez avec nous sur Europe 1.